RCF.
Nous nous retrouvons pour notre émission « Vivre et créer en couleurs » avec les couleurs noir et blanc aujourd'hui. Nous sommes là avec bien sûr notre peintre, Béatrice Vialcollet. Bonjour Béatrice.
Bonjour Cathy, bonjour à tous.
Aujourd'hui à nouveau avec Christine Merville. Bonjour Christine.
Bonjour.
Conteuse, elle joue ses spectacles à La Rochelle et vous surprendra peut-être en interprétant des textes en toute liberté. On ne devrait pas s'ennuyer. Et moi-même, Cathy Béchamel. Mais avant toute chose, commençons en guise de mise en bouche avec un beau poème que Christine va nous lire. Il s'agit de La délirée de Henri Beauchaud.
Que tu es belle, ma délirée. Tes joues sont noires et sculptées par l'ardent malheur. Ta bouche est ornée par la lune et tes yeux sont la couleur perdue. Ton corps est un grand paysage de colère. Tu es le rouge indéchiffré. Avec le noir, tu produis des paroles rouges. Le temps nous a rejoints. Tu marches dans l'instant cruel. Nous sommes et nous ne sommes rien. Rien que ce que la terre en tournant délirait.
Dans la première émission, nous avons vu en quoi la physique et l'histoire rapprochent le noir et le blanc. Dès l'origine, ces deux couleurs sont essentielles. On les ressent aussi comme l'ombre et la lumière. Et là, on remarque qu'une référence persiste à travers les siècles, c'est celle de la nature.
Oui, en effet, on peut dire à nouveau que la symbolique blanc-noir vient aussi de la référence aux éléments de la nature. Parce qu'on le sait, la nature, c'est la couleur.
C'est ce que nous raconte Annick Valin, que vous entendez parfois sur les ondes de RCF. Promenons-nous un instant à ses côtés dans ce petit poème, extrait de ses 4 saisons en pays d'Onis. Notre ami célèbre la venue du printemps et des couleurs dans « La veille du grand jour ». Ça se passe à Angoulins. À vous, Christine.
La haie a revêtu ses habits de fête. Le prunelier n'a plus l'allure farouche. Il a enfoui épinées branches noires sous des manchons de fleurs blanches. Lisse, comme le menton d'un jeune garçon, le ciel est imberbe de nuages. Il enveloppe la campagne de son voile bleu. Les trilles des alouettes accompagnent mes pas. Pâquerettes et pissenlits piquettent l'herbe des talus. Vert, jaune, blanc, la nature a hissé les couleurs du printemps. Demain, il va pouvoir faire son entrée.
Oui, le printemps couvre les buissons de blanc, comme l'hiver du reste. C'est vrai que pour le blanc et le noir, les références à la nature sont nombreuses. Arrêtons-nous sur le fait que noir et blanc sont la nuit et le jour.
Oui, le blanc, c'est la lumière. Il est emblème de pureté, de vertu. On pense au blanc d'Ulysse, de la colombe, alors que, faut bien dire, le corbeau noir est beaucoup moins sympathique. Le blanc indique que rien n'a été accompli. C'est le sens initial de la blancheur virginale de la robe des communions. Et c'est aussi celle de la fiancée qui va vers ses épousailles, vêtue de la lumière céleste.
Le noir, lui, s'associe à la nuit. C'est la négation de la lumière. Il est le symbole du néant, de l'erreur, de ce qui n'est pas, de l'ignorance, de ce qui est faux, du mal. Du reste, diables et sorcières sont noirs comme les dessins noirs. Les rites initiatiques de l'Antiquité comportaient des épreuves nocturnes. Et à cette occasion, le postulant traversait une mort symbolique dans un lieu obscur pour devenir un homme nouveau et renaître à la vie spirituelle. Le noir est l'obscurité des origines. Il précède la création dans toutes les religions.
C'est ça. Pour nous, le blanc est propre comme la neige pure, alors que le noir est sale. Mais il évoque la Renaissance. C'est la couleur du charbon qui rappelle dans le même temps le processus de la combustion et le prélude à la régénération.
Ceci dit, le ressenti du noir et du blanc diffère pour chacun d'entre nous. Écoutons dans la bouche de Christine les mots de Juliette Gréco. La chanteuse dit être incapable de chanter en blanc, alors qu'en noir, elle se sent protégée.
C'est assez curieux, comme l'amour, le désir du noir peut être inscrit dans les gènes. Ma mère était bordelaise, mon père corse. De régions où les femmes étaient en noir. Quand je suis allée pour la première fois au Japon, il y a environ 50 ans, on m'a posé cette question. Pourquoi le noir ? J'ai répondu qu'en noir, je me sentais protégée. Moi qui étais timide, coincée, quasi muette. Ils m'ont répondu que dans leur culture, justement, le noir signifiait la protection. Je serais incapable de chanter en blanc. Autant je peux parfois être impudique par la parole, autant j'ai la pudeur du corps. Le noir me permet d'aller très loin dans ce que j'ai à dire.
Oui, c'est amusant. Juliette Gréco se sent plus discrète en noir. Et alors, elle peut tout dire. Et pour le couturier Yamamoto, le noir est signe de protestation. Il s'en explique. On vous écoute, Christine.
Il m'arrive de penser que le noir peut disparaître, que ça pollue de faire du noir, et qu'un jour les gens ne porteront que du blanc. À chaque collection, j'essaie d'introduire de la couleur. Mais le noir finit toujours par l'emporter. Le noir, c'est la présence de l'ombre. C'est aussi une référence à la tradition du théâtre japonais. Très jeune, j'ai créé des t-shirts noirs à une époque où, au Japon, la réussite sociale était devenue une obsession. Le pays était submergé par une pluie de couleurs. Le noir était pour moi un signe de protestation. Il me donnait la possibilité de devenir une ombre dans un système ennuyeux que je rejetais. Au fond, ce que le noir proclame tient en quelques mots. Je ne te dérange pas, ne me dérange pas.
Eh bien, voilà. Les personnes qui s'habillent toujours en noir sauront quoi répondre. Je ne te dérange pas, ne me dérange pas. On le voit, noir et blanc ont chacun leur avantage. Ils se complètent. Voilà pourquoi, c'est sûr, la mère de Blanche-Neige fait le vœu que sa fille ait la peau blanche, des cheveux noirs et les lèvres rouges comme la goutte de sang qui tombe sur son ouvrage. Ici, on retrouve à nouveau notre trio dominant des origines avec les trois couleurs, noir et blanc, et la couleur, le rouge.
Enfin, noir, blanc ou même rouge, une chose est sûre, la vie en noir et blanc doit être moins drôle qu'en couleur. Il me revient une remarque d'un petit garçon. Oh, la vie devait être triste autrefois. J'ai vu les photos de grand-mère, il vivait en noir et blanc.
C'est trop mignon.
C'était bien l'idée de Raymond Devos qui disait « J'ai été au cinéma hier, j'ai vu un film en noir et blanc. Pas un film en couleur, je suis en deuil.
» Quant à Claude Nougaro, pour lui, la vie qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. C'est ce qu'il nous chante dans sa splendide chanson « Armstrong ».
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut, les anges. Zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir, du noir en dedans. T'enchante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi qui suis blanc de peau. Yeah. Armstrong, la vie. Quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans, sans, sans trêve ni repos, qu'on soit ma foi. Blanc de peau. Armstrong un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau.
Pour ceux qui nous rejoignent sur RCF, nous tentons de vivre et créer en couleur, et aujourd'hui avec le blanc et le noir. Nous disions que notre réaction à ces deux couleurs tient beaucoup à la façon dont elles nous apparaissent dans la nature. Noir et blanc sont la nuit et le jour, mais deuxième référence, noir et blanc sont la nouvelle lune ou la pleine lune.
Oui. Noir et blanc sont la nouvelle lune ou la pleine lune dans ce ciel. Le blanc, en tant que lune, est perçu comme un symbole maléfique. Ce blanc lunaire est celui de la lividité cadavérique et du linceul.
Alors que, à l'origine, le noir est le symbole de la fécondité, la couleur des déesses, de la fertilité et des vierges noires. Comme l'hiver appelle le printemps, le noir évoque la promesse d'une vie renouvelée. C'est le monde souterrain. Les entrailles de la terre noire où s'opère la régénération du monde.
Oui, on pourrait dire aussi que le noir, c'est Zorro, le justicier, celui qui remet les compteurs à zéro.
Zorro, Zorro.
Et là encore, on voit que blanc et noir sont alternativement perçus positivement et négativement. Cependant, le ressenti le plus courant est que noir et blanc sont le mal et le bien, la face noire et la face blanche.
En effet, on l'a vu tout au long de la saison passée, Cathy, la symbolique des couleurs varie suivant l'époque et le lieu. En France, le noir symbolise le deuil et le blanc, le mariage. Alors qu'en Chine, le blanc est synonyme de deuil et le rouge de mariage. Noir et blanc sont assez négatifs en Chine. Le noir symbolise plus la virilité alors que le blanc est plus féminin. Chez nous, noir et blanc ont tous deux été couleurs de deuil. Les reines ont porté le deuil en blanc. Le noir apparaît en Bretagne avec Anne de Bretagne au XIIIe siècle, mais dans les milieux princiers seulement, parce que le peuple ne suivra qu'au XIXe siècle.
Les peuples ancestraux avaient fait du blanc la couleur de la divinité. Les Égyptiens enveloppaient les défunts dans un linceul blanc pour montrer que la mort délivre l'âme pure de son enveloppe charnelle périssable.
En Inde, le blanc est associé aux rites funéraires et les couronnes funéraires sont blanches dans beaucoup de pays d'Asie.
Dans le rituel chrétien, les enfants sont conduits en terre sous un suaire blanc orné de fleurs blanches.
En fait, on commence notre vie dans un berceau blanc.
On l'a fini enveloppé dans le blanc linceul.
Avant de rejoindre l'au-delà blanc.
C'est dire que le blanc est dans le même temps départ et aboutissement.
C'est ça, il nous ramène à l'essentiel et l'on a envie de s'y plonger, comme Michel Berger dans son Paradis blanc.
Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner, il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc,
loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai et qui aimer ou condamner le jour où j'aurais tout donné. Que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc.
Bienvenue sur RCF, à vivre et créer en couleur, où nous évoquons aujourd'hui le blanc et le noir. La portée symbolique du noir, on l'a vu, n'est pas toujours aussi positive. Pourtant, et c'est sur quoi on va se pencher, vous nous dites, Béatrice Vialcollet, blanc et noir se rejoignent dans leurs effets essentiels. Ils sont interdépendants et complémentaires.
Oui, et constatons tout d'abord ce premier point. Juxtaposer noir et blanc, c'est augmenter leur contraste. Si blanc et noir sont mis côte à côte, le blanc paraît plus blanc et le noir plus noir. Ils se renforcent. Prenons l'étoile blanche, elle scintille d'autant plus dans le ciel très noir, lequel, à côté de l'étoile blanche, apparaît plus noir encore. J'aimerais donner un premier exemple en laissant la parole à Bartabas, qui utilise dans ses spectacles cette faculté de contraste du noir et blanc juxtaposé. On vous écoute, Christine Merville.
On ne dit jamais d'un cheval qu'il a une robe noire, parce que l'on considère qu'il a toujours au moins un poil gris ou blanc. Je possède un cheval que j'ai appelé Soulage, comme le peintre. Il a une robe sombre, évidemment. Mais le noir est pour moi une couleur qui permet à la fois de jouer sur les lumières, les teintes et les nuances. C'est à partir de lui que je fais monter la lumière des couleurs. Le noir est aussi intéressant à cause des reflets gris, bleu et même blanc que l'éclat des projecteurs peut provoquer sur la robe des chevaux. C'est une couleur infinie.
C'est amusant de constater que les animaux font un très bon usage de ce contraste noir-blanc. Les oiseaux mâles s'ingénient à démontrer leur bonne santé et leur qualité reproductive, et pour se faire remarquer à l'occasion de la parade nuptiale et attirer la femelle, tout est bon. Chant, plumage, et justement un peu de ce blanc bien placé qui saute aux yeux. Je citerai des exemples que nous voyons beaucoup chez nous. C'est la bande blanche sur l'aile noire de la pie, la tache blanche sur la joue de la maison charbonnière, les taches blanches sur la queue noire de l'hirondelle rustique, les taches blanches sur les cuisses du cormoran, enfin la liste est longue.
On peut donner un autre bel exemple de la force du contraste noir-blanc, de la subtilité dont ces deux couleurs font preuve lorsqu'elles cohabitent. Je veux parler des films et photos en noir et blanc.
Ah oui, c'est en effet un très bon exemple. Au début, on a représenté le monde en noir et blanc, on n'avait pas le choix. Quand la couleur est apparue, le Technicolor a fait usage sans retenue de couleurs artificielles et criardes, il faut bien le dire. Action, réaction, aujourd'hui, on revient souvent au noir et blanc. Il permet une expression très artistique, une esthétique sobre et délicate. Et ce noir et blanc peut donner des ambiances très différentes dans la poésie, le fantastique ou le mystère.
Et c'est tellement beau. Justement, Je viens de voir un film qui s'appelle Peur du noir. Et ce sont 5 dessinateurs qui ont, de leur pire cauchemar, ont fait un film d'animation. Tout est dessiné en noir et blanc. Ça se passe souvent la nuit. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est la simplicité du trait. Par exemple, juste un contour de tête va faire apparaître le personnage dans une pièce totalement noire. Et peut-être aussi juste le contour de ses doigts, parce qu'un jet lumineux arrive. C'est très fort, avec 3 fois rien.
Oui, c'est la démonstration. Quand la couleur disparaît, la forme, le trait est d'autant plus mise en valeur et on ne voit plus que.
Dans ce domaine, nous avons de la chance à La Rochelle, parce que nous avons le Festival international du film qui nous permet de voir beaucoup de films en noir et blanc.
Oui, je me souviens notamment avoir vu à ce festival le film Heimat de Reitz. Un vrai chef-d'œuvre, une pure beauté. Il nous fait entrer dans un monde en noir et blanc, à la fois fort et doux, contrasté de lumière et d'ombre. Et puis alors soudain, surprise, un détail apparaît en couleur, comme des cerises rouges ou un écu jaune. Alors on ne voit plus que ces cerises ou cet écu.
On peut parler aussi du peintre Pierre Soulages. Lui-même a beaucoup joué du contraste entre noir et blanc. Écoutons ce qu'il dit à propos de son exposition « Noir-Lumière » au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1996. Christine en vous laisse nous dire ce texte important.
J'aime l'autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité. Son puissant pouvoir de contraste donne une présence intense à toutes les couleurs. Et lorsqu'il illumine les plus obscures, il leur confère une grandeur sombre. Le noir a des possibilités insoupçonnées. Un jour, je peignais le noir, et le noir avait envahi toute la surface de la toile, sans forme, sans contraste, sans transparence. Dans cet extrême, j'ai vu en quelque sorte la négation du noir. Les différences de texture réfléchissaient plus ou moins faiblement la lumière, et du sombre émanait une clarté. Une lumière picturale dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de peindre. J'aime que cette couleur violente incite à l'intériorisation. Et mon instrument n'était plus le noir, mais cette lumière secrète venue du noir. D'autant plus intense dans ses effets qu'elle émane de la plus grande absence de lumière. Je me suis engagée dans cette voie. J'y trouve toujours des ouvertures nouvelles.
Oui, à propos de Soulages, j'aime beaucoup cette histoire que vous nous aviez racontée, Béatrice, à propos du noir. Elle illustre à quel point blanc et noir sont indissociables. On demande à Soulages ce qu'il dessine quand, petit garçon, il est en train de tracer de longs traits noirs sur une feuille blanche. Il répond « De la neige !»
Oui, c'est formidable. Ça, franchement, dessiner quelque chose de blanc avec des traits noirs, c'est extraordinaire.
Et cela nous amène au deuxième point commun entre noir et blanc, la sensation de profondeur. Mais nous verrons cela lors de notre prochaine émission. Alors pour aujourd'hui, Béatrice, quel sera notre clap final pour vivre et créer en couleur ?
Avant de nous quitter, si nous faisions un petit tour à Venise. Voilà une ville où la couleur est reine, n'est-ce pas ? Voyons comment Théophile Gautier vit en couleur le carnaval de Venise avec cet extrait de son poème « Carnaval ».
Venise pour le bal s'habille, de paillettes tout étoilées, scintille, fourmille et babille, le carnaval bariolé.
Battant de l'aile avec sa manche, comme un pingouin sur un écueil, le blanc Pierrot par une blanche passe la tête et cligne l'œil.
Sur une cadence se glisse, un domino ne laissant voir qu'un malin regard en coulisse aux paupières de satin noir.
Alors, vous me demandez quel serait notre clap final pour vivre et créer en couleur. Eh bien, pourquoi ne pas rester sur la force du couple noir et blanc, sur ce noir-lumière qu'a créé Soulages dans ses peintures, ce noir dont il dit que la lumière vient de lui. Cela me ramène à ce qu'écrit Rainer Maria Rilke dans ses lettres à un jeune poète.
Peut-être tous les dragons de notre vie ne sont que des princesses qui attendent de nous voir un jour beaux et courageux.
Comme si dans chaque trou noir sommeillait un phénix, prêt à renaître de ses cendres.